Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de ketchup. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire. Le ketchup, grosse goutte d'huile, c'est essentiel. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Cette semaine, on se retrouve pour SmackDown. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Nous sommes là pour le SmackDown du 31 juillet 2020 au Performance Center. Et sans plus attendre, je vous présente mon partenaire, mon tag team partner of the day, mon bon ami, mon inamovible papy. Comment ça va, papy?
Bonjour les petits enfants, bonjour tonton. Mais oui, nous sommes au show bleu, le show où tout est merveilleux. Je suis tellement heureux de te rejoindre.
Ah, okay. Le plaisir et le bonheur est partagé. Alors bon, on se retrouve pour SmackDown. Est-ce que ça vous avait fait rêver la semaine dernière avec Ringside SmackDown?
Moi, ça m'avait fait espérer plus que rêver. C'était pas un show exceptionnel, mais il y avait quelques petites notes d'espoir qu'on a retrouvé un petit peu dans ce show. Donc, continuons comme ça.
D'accord, ok. Et en particulier, la fin, le main event avec Sheamus et Hardy, vous aviez dit quoi avec Ringside à propos de cette
fight? Et je me souviens plus que c'était ça en main event. En fait, on avait été un petit peu. Moi, je crois que je lui ai donné mon flop en termes de.
D'accord.
Le petit passage magique de l'apparition du maquillage de Jeff Hardy qui m'avait totalement sorti du truc, en fait. Parce que ce que je disais, c'est qu'autant quand le Taker fait ça, je veux bien. Autant dans un bar fight entre Jeff Hardy et Sheamus, des pouvoirs magiques, je n'ai pas trouvé le rapport en fait. Donc,
d'accord.
Un peu perturbé. Puis on se disait aussi, la réflexion de se dire que, mine de rien, Jeff Hardy est quand même pas mal mangé durant le match, notamment à la tête dans les chiottes, etc. Et qu'au contraire, on aurait espéré que ce soit Sheamus qui mange le plus pour justement donner une belle victoire bien, bien définitive à Jeff Hardy. Quoi.
D'accord. Ok, vous aviez donné quoi comme note?
Oh,
la dernière, tu te rappelles? Des notes basses, j'imagine.
Je crois que j'avais donné 2,5 et que Ringside avait donné 2 de mémoire.
D'accord, ok.
Parce que bon. Je dis, moi j'avais donné les 2,5 d'espoir parce qu'il y avait quelques petits d'espoir avec notamment Biggie et je sais plus, il y avait 2-3 grands métalliques qui gagnaient le match pour être number one contender. Enfin, on avait quelques petites nouveautés et quelques petits. En tout cas, le petit truc de fraîcheur qui nous laissait, enfin, qui en tout cas moi me laissait espérer. Des lendemains roses ou bleus.
Des lendemains qui chantent. Eh ben écoute, voilà. On va voir de ce pas si tes espoirs étaient fondés. Alors le show, il ouvre directement avec un épisode de la Firefly Funhouse. Ça va être assez rapide. Bray Wyatt nous dit qu'il a mis un peu de temps à revenir parce qu'il est retourné dans le bayou à la recherche de Braun Strowman, que celui-ci d'ailleurs demeure introuvable. Et bon, il imagine donc que les alligators du coin l'ont certainement bouffé, ils ont eu de quoi manger, je pense, et qu'une part de son âme n'est à jamais piégée dans le lac du bayou. Voilà, mais bon, il est clair, il veut être clair, il nous explique qu'il ne voulait pas blesser son ancien protégé, bon d'accord, ok, mais qu'il voulait bien l'aider, mais maintenant il attend et il veut récupérer quelque chose qu'il y a Strowman. Voilà, il n'en dit pas plus, ça reste assez mystérieux, on va dire. Voilà, et du coup, on va rentrer dans le show directement et on va attaquer notre opener du jour avec un Intercontinental Championship, puisque Grand Metalik a gagné la semaine dernière le droit d'affronter le champion en titre, ni plus ni moins que AJ Styles. Et ils vont donc s'affronter dans un match de 14 minutes 30. Voilà, un assez long déroulé, quoi, avec de la place, largement de la place donnée aux Mexicains. Au Mexicain masqué. Bon, le champion va rester quand même de toute façon relativement dominant et ça va évoluer par phase. On aura droit un petit peu à tous les classiques, entre autres de Grand Metalik dans les cordes, des différents moves dans les cordes. AJ Styles, il n'est pas en reste sur ce genre de choses là-dessus, quoi. Et finalement, il va réussir à s'imposer puisqu'il va réussir à lui placer son calf killer. Et derrière, d'ailleurs, il va attaquer en post-match après avoir remporté cet Intercontinental Championship. AJ Styles va tout simplement attaquer Lindsay Dorado, le poteau de la Lucha House Party, et va lui coller un Styles Clash.
Voilà.
Alors, toute cette ouverture de SmackDown là.
C'est un petit truc un peu sympathique. Je pense que AJ Styles est en train de faire la tournée de la low card pour tous les mettre un peu minables et leur expliquer qui est le patron. Je pense que c'est le message qui est passé. En attendant que un véritable challenger se dévoile pour SummerSlam, certainement. Je vois comme ça. J'espère juste que ça ne sera pas la veille de SummerSlam qu'on aura le match intercontinental comme on a chaque pay-per-view en ce moment. Mais voilà quoi. Ouais, c'est plutôt plaisant. Moi, je suis plus là. Je te vois que je suis plus en attente de voir le véritable adversaire commencer à se découvrir pour AJ Styles, parce que clairement, là, il est en train d'enchaîner tous les petits flyers, les petits techniciens de la low card, et juste pour prouver son point que c'est le meilleur. Mais
t'as un petit côté original quand même, que tu vois, il catch face à un grand métallique, tout ça, tu vois quoi. Moi, je trouve que ça a mis un peu de fraîcheur dans ce titre intercontinental là.
Ah oui, non, mais en plus, c'est une nouvelle tête, Grand Metalik. Là, il était bloqué en tag team. Il fait son petit passage pour le ceinture intercontinentale. Puis ça répond un peu à Daniel Bryan qui disait que voilà, il fait un fighting champion. Bah voilà, AJ Styles régulièrement il défend son titre. Et bon, je pense qu'on est, à moins que je sois surpris, mais je pense qu'on est juste dans une période où il gagne entre guillemets sans trop de surprises en fait, malgré tout. Ce sont des victoires convaincantes, hein, mine de rien. Il domine quand même la plupart du match.
Oui, parce qu'on a du mal à croire que Grand Metalik va prendre le titre aussi. Il y a aussi ce phénomène-là, quoi. C'est vrai que ça paraît étonnant qu'AJ Styles puisse perdre le titre dans un weekly comme ça face à un adversaire un petit peu inhabituel. Mais au final, moi j'ai trouvé qu'en termes catchesque, déjà, tu vois, quoi, ça remplissait pas mal sa mission. Hein, un opener de 14 minutes 30 à SmackDown, bon.
Non, mais ces derniers temps, ils font des matchs un peu plus longs.
Un peu plus longs, oui, c'est vrai. Ouais. Je crois qu'on l'avait noté ouais, déjà il y a 2-3 semaines de ça. Quoi.
Mais continue, donc, c'est bien, c'est une bonne idée, ça, pour le coup. Hein.
Voilà, pour le coup. Parce qu'en général, de toute façon, les SmackDown, ils sont remplis de 3 à 5 matchs selon les épisodes. Pour le coup, sur cet épisode-là, on en aura 4.
Voilà, donc, c'est une bonne moyenne.
Donc voilà. On en aura 4. Après, on parlera du timing et tout ça plus tard. Alors évidemment, comme on est dans SmackDown, hein, on a beaucoup de coulisses, beaucoup de backstage. On va avoir entre autres Chad Gable qui va être rejoint par le King Corbin qui va venir un peu se foutre de sa gueule du fait qu'il était absent ces derniers temps. Voilà. Alors apparemment, je sais pas, on découvre que Baron Corbin apparemment il a été bon pote avec Chad Gable auparavant et qu'il souhaite le voir le bat Matt Riddle, mais non, il a pas affronté Matt Riddle.
De quoi ? Non,
King Corbin, non, c'est Drew Gulak, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur Matt Riddle. C'est Drew Gulak, Baron Corbin va affronter Drew Gulak par la suite. Quoi. Et en fait, il propose son aide, hein, si j'ai bien compris, Baron Corbin à Chad Gable. Donc, il est en train de vouloir le recruter, c'est à peu près ça, ouais, essayer de former une espèce de team, là, faire tourner Chad Gable du côté obscur de la force. On va voir ça un peu plus tard. Derrière, on va avoir un récapitulatif du fameux bar fight que donc apparemment vous avez adoré. Et on va avoir le retour d'un mec qui paraît qu'il est Mr. Money in the Bank, en l'occurrence Otis, qui va faire un petit câlin à notre ami, ou un gros câlin, c'est au choix, hein, à Jeff Hardy, qui va aller dans le ring, qui va affirmer que bah il s'est jamais senti aussi bien, que tout va bien, tout est formidable. Bon, ces dernières semaines sont difficiles, mais bon, il a battu Sheamus, il a battu ses démons, il a battu tout le monde, Jeff Hardy. Donc voilà. Donc il nous dit qu'il va jamais retomber dans ses travers. Mais c'est là que King Corbin fait son entrée, se moque de Jeff Hardy allègrement en le traitant comme il faut de pleurnichard. Mais lui, surtout ce qu'il en déduit de tout ça, c'est que bah, finalement la vie de Hardy sucks, quoi. La vie de Hardy stinks, la vie de Hardy pue, et qu'il devrait finir par l'accepter et puis se taire. Alors voilà, et pendant qu'il est en train de faire cette promo, l'ami Corbin, y a Drew Gulak, son adversaire du soir, qui arrive par derrière et qui va lui cogner dans le dos de manière pas sympa du tout. Et il va même le faire tomber par terre.
Vilain pas beau.
Le coup bas. Et ça va nous emmener sur un single match, donc entre King Corbin et Drew Gulak. Alors, ça va être expéditif puisque ça va durer 5 minutes. King Corbin va gagner son match, va tout faire plus ou moins. Drew Gulak va tout faire pour essayer de déconcentrer plus ou moins le Baron Corbin, mais ça va pas véritablement marcher. Et ça va aller vite, quoi. Il va réussir à choper dans le end of day le Drew Gulak. Moi, j'ai été étonné. En fait, je parle de ce match parce qu'en fait, j'ai été étonné de la durée de ce match et du fait que Drew Gulak soit présenté aussi faible sur ce coup-là, quoi. Alors que depuis plusieurs semaines, il avait du temps d'exposition et que là, tout d'un coup, dans un match un peu random, voilà, ça va se boucler en 5 minutes. Et puis voilà, quoi. Et derrière, on va avoir Chad Gable qui va intervenir parce que Gulak va se rebiffer un peu en attaquant le roi à nouveau. Et Chad Gable va débarquer et va effectuer donc ce fameux heel turn en attaquant Drew Gulak. Et finalement, plus ou moins surpris, mais pas tant que ça. King Corbin, il rejoint Chad Gable et puis ils repartent ensemble tels des bons poteaux.
Je pense que tu t'es un peu mélangé les pinceaux dans le déroulé. C'est possible, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur la fin du match, tu as la musique de Matt Riddle qui arrive.
Ah, mais non, mais
Riddle arrive sur la rampe.
Ah, mais c'est pour ça que je parlais de Matt Riddle au début, là. C'était parce que j'étais lancé dans l'histoire de Matt Riddle. Alors, vas-y, je te laisse finir.
Donc Matt Riddle arrive. Du coup, ça déconcentre Corbin et Gulak qui tente un roll-up.
Oui, c'est
ça. Corbin sort du roll-up et enchaîne avec le End of Day. C'est pour ça qu'il gagne, en fait. Parce qu'il a finalement, c'est un peu par surprise. Parce que le End of Day, de toute façon, c'est une prise fatale. Je crois que personne ne s'en est relevé jusqu'à présent, en fait. Donc, il gagne sur ça. Et donc, ensuite, à Riddle qui va attaquer Corbin. Et là, tu as Gable qui vient attaquer Riddle pour aider Corbin, justement. Et donc, c'est là où la situation se fait, en fait. Et donc, effectivement, il turn de Gable qui fait bien comprendre à Corbin qui est d'accord pour le rejoindre, parce qu'il fait même le petit signe avec les doigts, là, genre monnaie,
ouais,
monnaie. Là,
ouais, ok,
moi, parce que c'est vrai qu'en la semaine dernière, en fait, tu avais quelque part quand même qui avait fixé une rançon, en fait, un bounty pour Matt Riddle en disant, voilà, ce mec-là qui débarque pieds nus, là, il veut voler le show de SmackDown, mais il n'est pas prêt de m'affronter. Moi, je n'importe quel superstar qui veut se faire Matt Riddle, moi, j'offre une rançon à sa tête en tant que roi, etc. Bref.
D'accord. Il a mis un contrat sur la tête de Matt Riddle.
Voilà, exactement. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là, je pense, que ça s'est passé, voilà. le segment.
Et en fait, c'est ça, ouais, l'histoire de Matt Riddle. Je ne sais pas pourquoi je me suis embrouillé, c'est Alzheimer, un peu de catch-up. Je suis trop vieux pour ces conneries.
Votre catch, hein.
Je suis trop vieux pour ces conneries. Et du coup, ouais, voilà, ouais. Donc, finalement, le fait marquant de ce segment, c'est le heel turn de Chad Gable. C'est peut-être quelque chose de plutôt positif pour la suite de son run à la WWE, quoi. Parce que c'est vrai que finalement, Corbin n'avait pas si tort que ça en disant qu'il était un peu enterré depuis des semaines et des semaines. Et en l'espace de deux épisodes, finalement, il aura retourné le cerveau de Shorty G et voilà, nous voilà avec peut-être une nouvelle tag team à Raw.
Oui, peut-être. Effectivement, moi, Shorty G, je m'étais suffisamment plein les dernières semaines en disant que son personnage était mort et enterré, vu que je vois qu'il y a eu des reboots systématiques en mode « Oui, ben, je suis petit et je ne vais pas me laisser faire ». Et tous les deux mois, on avait ça, donc c'était un peu insupportable. Donc, j'appelais de mes voeux un changement. Bon, ça passe par Eternal, mais pourquoi pas. Et effectivement, on peut très bien imaginer que Gulak et Riddle s'associent pour affronter Corbin et Gable. Surtout que Riddle et Gulak, ils l'ont pressé d'ailleurs dans l'épisode, ils ont un passé commun parce que c'est Gulak qui a permis à Riddle de faire la transition du MMA vers le catch. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté en tout cas.
Ouais, ouais.
Donc voilà, donc effectivement, il y a des relents de tag team, je pense, là-dedans.
Ok, bah écoute, en tout cas, si ça peut occuper Chad Gable et que si son heel turn peut faire un peu du bien à son personnage, ça sera pas mal parce que voilà, rester dans le truc permanent du « je suis petit, je suis petit, je suis petit », au bout d'un moment, c'est fatigant, surtout quand ça dure sur des mois et des mois. Donc finalement, moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, cette histoire de heel turn.
Pareil.
Derrière, écoute, on va avoir un autre single match puisque cette fois-ci, on va avoir donc les débuts véritablement de Big E en solo. Alors bon, cette histoire de début, on va dire que c'est des débuts suite aux blessures dans le New Day, mais parce que Big E, il avait commencé à la WWE comme enforcer de Dolph Ziggler. Ensuite, il a eu un run solo qu'on a tendance à oublier, mais dans lequel il aura quand même été au passage champion intercontinental.
Tout à fait.
Et après, alors, en 2014, création du New Day. Et depuis 6 ans, bon, on peut dire que le New Day roule sur la Tag Team Division de la WWE dans son entièreté, hein, puisque que ce soit Raw ou SmackDown, ils ont collectionné les titres de champion. Et énorme run, plus à ça, tu rajoutes le titre de champion du monde de Kofi Kingston glané au passage. Et le New Day aura fait un strike, hein, on peut dire. Et voilà, et donc du coup, Big E est lancé en solo suite à la blessure de ses deux comparses. Et il va affronter ce soir The Miz. Alors moi, ça m'a fait marrant parce que j'étais au house show parisien de Bercy en 2014, justement. Au moment où c'était le tout début de la création du New Day, ils n'avaient même pas encore leur costume et ils n'avaient même pas encore la musique. Je crois qu'ils rentraient sur la musique de Kofi Kingston. Et ils avaient affronté la paire mise Damien Sandow. Et Damien Sandow était dans le trip de Mizdo, ouais, le copycat de The Miz. Et donc voilà, donc je les avais vus interagir, Biggie et le Miz, l'un en live, et c'était plutôt sympa finalement d'avoir un match comme ça, de les revoir en un contre un à SmackDown. Ils vont nous sortir un truc vachement correct, ils vont nous sortir un match de 14 minutes, avec John Morrison en plus présent pour un peu mettre le dawa, quoi. Voilà, quelques interventions. Mais on va avoir un match plutôt pas mal, et surtout, Big E va remporter donc son premier match de ce run solo, et il va pas le remporter sur son Big Engine, il va le remporter sur son Awesome One, là, il va faire taper l'Awesome sur son, comment il appelle ça, son Stretch Muffer, là, donc cette espèce de prise de soumission où je chope le pied, la cheville que je mets autour de la nuque, et je contorsionne le genou, pas très 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 dur, et ça doit faire très 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 mal. Et victoire de Big E en 14 minutes. Alors, voilà. C'est la papy.
Bah oui, une belle victoire convaincante. On en parle en début de l'émission. Ça faisait partie, moi, des choses qui m'avaient, qui me laissaient de l'espoir de voir Big E se lancer peut-être un peu en solo, parce que je pense que toi, t'es un peu comme Ringside et moi. Ça faisait quand même des mois, voire des années qu'on attendait de voir Big E retenter sa chance en solo. Vu que très régulièrement, c'était le mec des New Day qui voulait un peu le show dans les matchs pour le titre tag team. Là, il a face à lui, bah, mine de rien, un ancien multiple champion du monde, champion intercontinental, un ancien champion du monde. Même si le Miz maintenant est vraiment redescendu dans la carte et puis en ce moment est vraiment focalisé sur la tag team, quand tu mets un match solo face au Miz, mine de rien, tu sais que c'est quand même pas le tocard du coin. Donc, et puis effectivement, le contenu était plutôt intéressant avec pas mal de. Il est obligé d'un peu de se refaire un petit set de moves spécial pour le solo. Et bah, du coup, il a pas mal déroulé. Le Miz aussi a fait un peu son petit truc. Morrison, en tant que groupie, bah, il le fait plutôt bien. J'ai l'impression qu'il s'amuse bien à faire le bouffon pour l'instant, l'ami John. Et voilà quoi, satisfait, bon démarrage pour Big E, puis qui continue comme ça, la voie est tracée vers les succès pour lui.
Ouais, c'est pas mal, hein. Il est bon au micro, il a une présence physique énorme, il est entre les cordes, il est malgré son gabarit, il est capable de faire des choses incroyables, hein, comme son fameux spear entre la troisième et la deuxième corde. Il est capable de sortir du saut à l'extérieur, il est capable de monter sur
tout souplesse.
De passer des souplesses. Enfin, c'est un mec vraiment complet, hein, vraiment complet entre les cordes. Puis bah, je crois que de toute façon, au micro, il n'a plus rien à prouver. Hein. Ça fait des années qu'il régale. Et tu as vu qu'il continue, hein, à rentrer sur la même entrée. On lui a pas pour l'instant prévu un package spécifique. Hein. Il reste sur l'entrée des New Day, il reste avec la musique, il continue à faire l'intro qui les a rendus si célèbres. Et donc pour l'instant, là-dessus, pas d'évolution particulière. Mais en tout cas, il est lancé. Et on verra sur où ça nous le renverra.
Il va peut-être faire comme Roman Reigns, il va peut-être piquer la musique du New Day, se l'approprier pour lui.
Peut-être pendant un certain temps, ouais. Ouais, dans l'attente du retour de Woods et de Kingston, effectivement, ça peut être possible qu'ils prennent un truc pareil, quoi. Pendant ce temps, en backstage, on a Cesaro et Nakamura qui fêtent ça, quoi, qui fêtent leur victoire pour les titres par équipe il y a peu. Et donc voilà, donc ils sont plutôt d'humeur goguenarde, notre Suisse et notre Japonais. Et ils vont croiser la Lucha House Party d'ailleurs, où le Cesaro va bien sous de la gueule de Grand Metallic, quoi, du fait qu'il ait manqué sa chance à son premier titre solo face à AJ Styles. Bon, donc ça sent de la feud à venir vraisemblablement entre la Lucha House Party et nos deux nouveaux champions tag team. De l'autre côté, on va avoir l'ancien du bar, tiens, Sheamus, qui va venir nous faire une petite promo pour admettre qu'il a commis une erreur en affrontant Jeff Hardy dans son environnement naturel. C'est son environnement. Et que oui, que c'était quasiment un match à handicap pour lui.
Voilà.
Il est chié le Sheamus, quoi. Mais il va pas se plaindre, il va pas se plaindre parce que le karma est là pour faire tomber Jeff Hardy. Donc moi, alors il affirme qu'il en a fini avec Jeff Hardy et que du coup, c'était une mauvaise nouvelle pour le locker room parce que ça va leur causer de nouveaux problèmes. Donc finalement, Alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi j'ai eu la sensation que Sheamus, de toute façon, enterrait de lui-même la rivalité là.
Ah bah moi je l'ai pris comme ça aussi, tu vois. Je parlais au début qu'on trouvait que la victoire était peut-être pas assez définitive, mais il a peut-être fait en sorte qu'elle le soit, du coup, l'ami Sheamus.
Voilà.
Et bah pourquoi pas, hein, si ça peut
Ouais,
permettre de relancer d'autres rivalités, parce que Sheamus et Jeff Hardy, ils ont suffisamment de talent pour aider d'autres petits copains à eux, quoi.
c'est le perdant qui a décidé que bon voilà, c'était terminé, n'en jetez plus.
Voilà, j'en ai marre de prendre des coups.
Voilà, donc on passe à autre chose. Donc écoute, c'était un nouveau moyen de mettre une fin à une rivalité. Pourquoi pas, Sheamus. Derrière, on va avoir le troisième match de la soirée qui va être un match féminin qui va opposer, comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant, je crois, Naomi et Lacey Evans. Et comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant, ça va se finir très très vite puisque là, on va avoir un match de 3 minutes 15. Écoute, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, le plus marrant finalement, c'est le finish, puisque ce match de 3 minutes 15, ça se finit avec Naomi qui profite du fait que Lacey est en train de lui tirer les cheveux et elle surprend avec un backslide.
Ouais.
Voilà. Cachez votre enthousiasme, peuple de catch-up. Je sens que vous êtes fou et je sens que le papy l'est aussi.
Bah non, mais ça tourne, enfin comme tu le dis, ça se répète beaucoup. Ça tourne toujours autour des cheveux. Alors je te tire les cheveux, je te fais ci, je te fais ça, je te les coince dans les escaliers, je te les coince dans les cordes. C'est en plus la semaine d'avant où c'était le coup du je te fous du maquillage sur la tronche lors du mise du Miss TV de mémoire. Bref, c'est pas vraiment réjouissant, c'est de la low card féminine. Ouais, je sais pas trop où ils veulent en venir là-dessus, parce que est-ce que le but c'est de qu'une des deux en ressorte forte pour aller du coup remonter dans le haut de la carte, est-ce que c'est juste un truc de transition, est-ce que je sais pas, moi j'en parlais sur le Discord, j'aimerais bien qu'il se fasse un R versus R match entre les deux filles, du coup vu qu'ils arrêtent pas de tirer les cheveux, ça donnera un peu d'originalité à SmackDown, mais là pour l'instant je reste perplexe parce que on en parlait de Shorty G et moi ça me fait Naomi, j'ai un peu le même effet avec elle, c'est que bah elle est vraiment à l'au bout de son personnage, du coup moi elle m'intéresse pas pour l'instant, donc faut absolument qu'elle trouve un truc pour changer son personnage. Alors ça, à la limite si elle perdait ses cheveux et que du coup ça pourrait peut-être l'aider à changer, j'en sais rien, mais peut-être que je me fais des rêves. Mais ouais, faut pas que ça continue trop comme ça là, parce que sinon on va vraiment commencer à leur jeter des cailloux. Hein.
Ouais, alors la transition R versus R, bah écoute, oui, effectivement, un match entre Naomi et Lacey Evans sur cette stipulation, ça pourrait coller, mais le problème, c'est que derrière, on a eu un backstage, à nouveau, avec Mandy Rose et Otis, qui sont en train de s'organiser un date, en fait, hein, et voilà, elle a réservé une table sur son resto barbecue préféré, vraiment, non mais vraiment, pour moi, mais Otis, c'est tellement le Mr. Money in the Bank le plus catastrophique de l'histoire de la WWE, bon bref, passons.
Ah bon, les Mister Money in the Bank.
Ah oui, au fait. D'ailleurs, on n'aura même pas vu la manette encore une fois, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc voilà, donc ils partent finalement chacun de leur côté pour aller se préparer à ce fameux date. Et on voit du coup Sonya Deville qui est en arrière-plan. Et voilà, bah, Sonya Deville, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jaillir pour attraper son ancienne copine et elle va la tabasser méchamment, quoi. Elle va la passer à tabac comme il faut, elle va lui arracher les cheveux, elle va jurer qu'elle va lui ruiner sa vie, quoi. Et finalement, elle va même lui découper les cheveux, hein. Si je ne me trompe pas, hein, elle va lui couper des touffes. Et voilà, quoi. Donc, grosse haine en développement entre Sonya Deville et Mandy Rose. T'as Kayla Braxton et Otis qui vont arriver sur les lieux de l'attaque quand même avec pas mal de retard, et puis avec le Miz et John Morrison aussi, quoi, et qui eux sont un peu finalement morts de rire que du coup il y a Tucker qui vient filer un coup de main à son pote et qui se confronte un peu au dirt sheet, quoi, et on se dit à ce moment là ah bah tiens, ça y est, ils se sont rappelés que Tucker et Otis étaient aussi une tag team et du coup ils vont les relancer dans la tag team alors que l'autre il est toujours Mr. Money in the Bank, enfin bon bref. N'en jetez plus, je n'arrive même plus à comprendre quoi que ce soit par rapport au personnage d'Otis. Peut-être que papy va m'éclairer.
Oula, alors là, tu m'en demandes beaucoup, là. sur ce segment, effectivement, je te confirme qu'elle a coupé pas le tout de cheveux, notre amie Sonya Deville. Elle lui a même tartiné le virage de maquillage. J'en parlais tout à l'heure pour l'autre segment entre Naomi et machin, Lacey Evans. Et en fait, bah, j'ai l'impression que c'est devenu une constante au niveau de la division féminine de SmackDown. On se tire les cheveux, on se coupe les cheveux, on se fout du maquillage, et ouais, bah, ça vole pas très haut, ça vole
Non.
même plus bas cette affaire. Et Otis, il oublie sa mallette, il oublie qu'il est en tag team. Maintenant que tu me dis ça, je suis en train de me dire que peut-être ils vont relancer la tag team avec Tucker parce que mine de rien, hormis les Lucha House Party, il n'y a plus aucune tag team face dans la division de SmackDown, dans la division bleue. Donc si tu as un match contre Cesaro Nakamura, c'est peut-être l'occasion de déterrer les anciens Heavy Machinery. J'en sais rien. Et puis ouais, non, le seul truc qui m'a plu, enfin, qui me fait toujours un petit peu marrer, c'est Miz et Morrison en mode qui commente un peu en mode ouais, dans cheat et qui se mettent dans un coin pour lancer des 20 pourris puis qui se font chasser en fait. Et finalement, c'est un peu le. Quelques semaines, c'est un petit peu ça. À chaque fois que tu es dans un coin de l'écran ou dans un coin de. Dans une situation, ils sont toujours en train de faire des commentaires, à chercher la merde un peu partout, puis ils te font chasser. C'est un peu les petits blagueurs. Ça mange pas de pain. C'est ce qui m'a le moins dérangé du segment, on va dire.
D'accord. Ouais, bah voilà, bah écoute, on arrive à notre main event du soir,
Déjà.
qui est un match de championnat pour la ceinture suprême de SmackDown, de la division féminine. Et donc, on va avoir la championne Bayley, accompagnée de Sasha Banks, bien évidemment, qui va affronter Nikki Cross, accompagnée d'Alexa Bliss, bien évidemment. Ce main event, on va avoir droit à un match de 10 minutes, avec une Nikki Cross bien, bien énervée, finalement, bien dans son personnage, j'ai envie de dire quasiment, quoi, comme d'habitude. Ça va être un match assez animé parce qu'il va y avoir beaucoup d'action et du fait de la présence de Sacha et d'Alexa Bliss. J'ai trouvé, enfin, Nikki Cross, en fait, il n'y a pas un moment où elle arrive vraiment dans une domination où on se dit, ah, c'est dangereux là, ah, peut-être. J'ai toujours un espèce de je sais pas, il y a un truc moi qui me retient et où je me dis, ah non, mais non, elle peut pas gagner, je sais pas pourquoi. Et puis de toute façon, il y a tellement la hype autour de Bayley et Sasha Banks en ce moment que là, on ne voit pas vraiment une contender arriver et vraiment tout péter, quoi. Je vois pas, en fait, dans la division féminine bleue, je ne vois pas qui est là pour vraiment inquiéter en individuel Bayley à l'heure actuelle. Donc bon, je donne mon avis en fait en même temps du play-by-play, mais voilà. Donc du coup, ça se termine un peu avec. Il y a une intervention de Sasha Banks qui est empêchée aussi par Alexa Bliss. Bayley, elle va profiter d'une esquive sur un crossbody pour exécuter son headlock. Et grâce à ce headlock, elle va conserver son titre. Derrière, bah, finalement, les championnes vont vite évacuer le ring. Nikki Cross, elle n'est pas contente, elle est déçue, elle est triste, elle est au milieu du ring. Elle va repousser la copine, elle va repousser Alexa Bliss. Et finalement, bah, elle va quitter la salle un peu penaude. Et c'est Alexa Bliss qui reste au milieu du ring, toute dépitée. Donc sur le coup, je me dis, ah tiens, ça se termine comme ça, bon, c'est marrant, on laisse Alexa Bliss dans sa tristesse. Eh ben non, on entend des bruits étranges, les lumières commencent à s'éteindre de partout dans la salle, ça se rallume en rouge, et qui réapparaît sur le ring de SmackDown, et ça faisait un bail qu'on ne l'avait pas vu sur ce ring en l'occurrence, eh ben c'est le Fiend, Let Me In. Il est là, il est derrière Alexa Bliss, il a trouvé Alexa Bliss. Alors il prend un peu son temps dans une scène où Alexa Bliss est complètement paralysée, complètement tétanisée de peur. Et il va attaquer avec un Mandible Claw Alexa Bliss, quoi. Et les lumières vont s'éteindre à nouveau sous les rires de Bray Wyatt. Et c'est ainsi que se termine ce SmackDown. Alors papy, au-delà du Bayley versus Nikki Cross, terrifié pour Alexa Bliss.
Ah oui, terrifié là, c'est une sacrée fin de show qui fait écho à ce qu'on avait vu lors du pay-per-view Extreme Rules avec Alexa Bliss qui incarnait un peu Sister
Ouais,
Abigail.
tout à fait, ouais.
Et
Ça,
donc
c'est bien joué.
c'était on s'était tous dit ça, je pense que c'était un des rares trucs qui avait été bien dans le
Ouais.
match Wyatt Strowman et bah du coup ils l'ont compris et ils capitalisent dessus tout de suite. Alors en plus, moi j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Je pense que c'est fait exprès, hein. Mais comme tu le dis, en fait, elle était aux abords du ring pendant tout le match, l'ami Alexa Bliss. Mais elle était aux abords du ring face caméra. C'est-à-dire que pendant tout le match, moi je voyais que elle, en fait. C'est-à-dire que tu vois, Sacha
Oui,
elle
c'est
se
vrai.
baladait tout autour et elle était en face du ring et tu voyais tout le temps son visage en train de regarder le match, en train de ci, en train de ça. Et du coup, psychologiquement, tu avais son visage qui était ancré dans sa tête en disant c'est un truc important, c'est un truc important. Et là, claque, à la fin, elle se fait embarquer par Wyatt. Sincèrement, c'est ce genre de truc qui me plaît vraiment dans le show. C'est un truc qui est écrit, puis tu as le segment d'intro là où il dit que Wyatt dit qu'il va récupérer quelque chose. Fin du truc, il récupère Alexa Bliss, du coup. Tu vois, c'est des petites graines plantées. Là, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Et puis, sinon, pour revenir au match, parce que j'ai juste fait des sans trop te couper, parce que je voulais essayer de finir de rouler le match. Mais je suis à 100% d'accord avec toi. Ils ont tué la division féminine, en fait, au niveau SmackDown. Parce que là, tu as Bayley, tu as Sacha, mais Sacha, elle a ses yeux braqués sur Raw. Et puis, tu n'as plus personne, parce que là, la pauvre Nikki Cross a été battue clean. Effectivement, elle a été encore moins convaincante, je trouve, que lors de ses précédents matchs, où tu pensais qu'elle pouvait peut-être faire quelque chose, là, à aucun moment tu as cru. Bah, c'est fini, du coup, il n'y a plus personne pour aller chercher Bayley. Et bah, on en parlait tout à l'heure, les autres, le reste de la division féminine, bah, là, ça t'en est à tirer les cheveux, couper les cheveux, faire du maquillage. Enfin, ils jouent à la poupée Barbie, quoi. Donc, c'est pas
Ouais,
du
ouais.
tout. C'est compliqué, quoi, de trouver un adversaire à Bayley, là. Je ne sais pas du tout ce qui se prépare. J'espère qu'ils ont un plan. Mais là, ils ont un peu tué le truc là. Donc voilà. Donc bah, je finis le show avec une bonne impression parce que ça se finit sur le segment Alexa Bliss The Fiend, malgré un match qui m'a un peu tué mes espoirs sur la division féminine finalement.
OK. Ben voilà, et ben écoute, ben c'est comme ça que se termine. Alors moi je trouve, juste pour revenir sur la fin, je trouve que c'est bien joué ce qu'ils ont fait avec le Fiend et avec Alexa Bliss. Effectivement, c'est bien de capitaliser sur l'affaire Alexa Bliss, étant donné que de l'avis général, comme tu l'as dit, ça a plu à peu près tout le monde. Donc c'est bien qu'ils reviennent là-dessus. Bon, c'est vrai que Braun Strowman, depuis le fameux match à Extreme Rules, il a disparu des écrans. La ceinture aussi, hein, au passage, hein, quand même, hein.
Bah oui, forcément. Mais bon, c'est sur la manette.
Voilà, donc, mais pour le coup, c'est bien joué. Et après un match, un petit match hein, de 10 minutes en main event de SmackDown, bon, heureusement, il rattrape le coup en finissant sur un segment simple, court, mais efficace. Donc, écoute, la suite au prochain numéro. Et par contre, ce qui ne va pas être au prochain numéro, ça va être le top, le flop et la note du papy.
Ouh là 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 là, ça va être complicado. Alors, mon flop, mon flop, mon flop, mon flop. Je vais épargner. Oh, je ne sais pas si j'épargne ou pas. La division féminine qui est quasi morte suite à ce SmackDown. Ou est-ce que je le mets dans la tronche d'Otis qui... ouais, je vais le mettre dans la tronche d'Otis quand même. J'épargne les filles cette
Ah bah
semaine.
ouais.
Si vous... Alors, je les prends tout de suite. Si la semaine prochaine c'est la même chose, ça sera pour leur tronche, les filles. Hein. Mais par contre, cette semaine, ça sera pour Otis parce que Otis, qui soit un champion avec la mallette qu'il ne veut pas cacher, je trouve ça pas terrible, mais à la limite, il est un peu débile, pourquoi pas. Mais là, il n'a même plus la mallette, il n'a même plus rien, il est juste en tant que support d'une. Enfin, c'est le porteur de la mallette, mais il est support d'une rivalité de low-card féminine. Je sais pas comment on peut faire encore plus bas, quoi. Je raconte les filles, hein, ça aurait été low-card masculin, ça aurait été pareil. Mais en tout cas, voilà, il est support d'une rivalité de low-card. Le porteur de la mallette, un possible futur champion du monde. Je pense que là, quand on a dit ça, on a quasiment tout dit. Au niveau du top, le top, le top, le top, qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme top? Je vais le donner au segment final, en fait, au Finn et mince, Bliss. Je suis arrivé. Parce
Ouais.
que, comme je disais, j'ai trouvé ça finement construit et qui relance mon intérêt. Alors voilà, je me demande ce qui va se passer. Est-ce que, sachant qu'en plus, quand le Fiend attaque quelqu'un, il y a quand même une chance sur deux qui change totalement de personnalité derrière. Donc est-ce que du coup, Bliss va être utilisé comme une arme par le Fiend pour affronter Strowman? Surtout qu'en plus, voilà, Bliss, elle était un peu en bout de course avec son amitié avec Cross. Donc ouais, je trouve que ça ouvre plein d'opportunités et pour Strowman et pour Bliss ce segment-là. Donc et il a été très bien réalisé, donc moi moyen d'en être très content. Et en termes de notes, du coup, papa, c'est je vais ne mettre qu'un 2,25, qui est peut-être un poil plus sévère que la semaine dernière, mon 2,5, mais c'est justement parce que bah, on continue à avoir des espoirs, mais voilà, j'aimerais bien qu'il se concrétise un peu de temps en temps, quoi. Donc, le Biggie, il est sur la bonne route, Bliss, ça peut être pas mal, mais voilà, mais je me dis que ça peut être pas mal par rapport à ce que je pense, donc c'est pas par rapport à ce que c'est encore actuellement, donc c'est pour ça que je donne pas la moyenne, d'autant plus qu'avec ce qui s'est passé côté féminin, ça mérite pas d'avoir la moyenne, donc voilà, 2,25.
2,25. Ok. Eh ben écoute, moi, je vais mettre mon top. Je vais mettre mon top au début de Biggie face au Miz dans un bon match. Voilà, c'est long. Voilà, dans la même veine finalement que l'opener entre AJ Styles et Grand Metallic, quoi, des matchs de 14 minutes, voilà, de bonne qualité. Ça lance Biggie, une victoire convaincante face au Miz. Moi, je suis content qu'il soit pushé. Je considère que c'est normal, que c'est un putain de worker, que ça fait 6 ans que. Enfin, ça fait même. Lui, ça fait plus que ça, puisque lui, ça fait 8 ans qu'il est à la WWE, dorénavant. Enfin, dans le main roster, pardon. 8 ans. Et voilà, et qu'il ça débouche sur un run solo après toute la session formidable qu'ils auront fait avec le New Day. Donc, rien que pour ça, je vais lui donner mon top à Biggie. Et. Je trouve ça très bien. Mon flop, je voulais faire exactement le même flop que toi, en fait. Et sans, on ne se concerte pas, les amis, hein, je vous jure. Et, parce que moi, vraiment, Otis, non, c'est pas possible. Quoi. Moi, mon cœur saigne pour la mallette Money in the Bank, que je trouvais une des belles innovations des années 2000-2010, cette mallette, et que je trouvais que c'était vraiment sympa, que ça rajoutait au booking dans l'année, que c'était tout un tas d'attentes pour plein de choses. Ça pouvait concerner le titre de Raw, le titre de SmackDown. Il y avait différentes manières de le cacher, en fourbe, en pleine lumière, comme Seth Rollins à WrestleMania. Voilà, il y avait avec l'aide de l'autorité, comme Randy Orton face à Daniel Bryan. Voilà, moi, la mallette Money in the Bank, j'aimais comment on la gagnait et j'aimais comment on s'en servait par la suite. Et même si, tant pis si le mec pouvait échouer, c'est arrivé à 2-3 reprises. Mais voilà, mais là, on a vraiment un mec. Qui pour moi est en dessous de tout, et comme tu l'as justement dit dans ton analyse, mon cher papy, voilà, le mec, il est là pour faire du support de la low card féminine, quoi. Et il est Mr. Money in the Bank. Donc là, bah, ouais. Je dis non, je dis révolte, je dis plainte. Voilà. Donc Otis, tu te prends un gros flop dans ta face, et la WWE avec, de la part du papy et du tonton. Donc quand la famille n'est pas contente, on réfléchit un peu quand même.
Okay, carton rouge.
Voilà, il serait temps. Et moi, eh ben, écoute, ça ne va pas beaucoup changer. Je vais mettre un simplement 2. Voilà. C'est, moi, ça ne m'a pas super méga emballé. Beaucoup de, encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de backstage à SmackDown. Il y a eu 4 matchs, mais il n'y a eu que 2 vrais matchs. Il y a eu en fait 5 matchs, puisque si on va compter les 3 minutes en plus, quoi. Donc, c'était faiblard. Hein, c'était faiblard, quoi. Heureusement, quand même, qu'on a le championnat intercontinental pour ouvrir un peu le bal. Mais moi, j'ai trouvé le match entre Nikki et Bayley assez expédié. Et donc, le match en lui-même m'a pas emballé. Ce qui m'a emballé, finalement, c'est le segment final. C'est ce que tu as expliqué sur le film des Alexa Bliss. Mais vraiment, le championnat féminin était vraiment tout ce qui a pu random. Et donc, vraiment pas un show qui m'a vraiment pas emballé. Donc, moi, je vais partir sur un 2. Voilà. Et ben voilà, on est arrivé au bout de ce SmackDown. Du 31 juillet 2020. Et on va arriver au bout de notre promo également. Alors, les amis, vous connaissez hein, la communauté Catch-Up. Et pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, eh ben, sachez, mes amis, que nous sommes présents sur Discord, où le papy vous met des commentaires. Fou, un truc de fou. Allez lire ça et vous comprendrez.
Ça dézingue tout va.
Ah, ça dézingue dans tous les sens sur le Discord de Catch-Up. Quoi. Ouais, on a des Discordeurs bien actifs et bien chauds. Voilà, il y a du débat. Et voilà, vous nous retrouvez sur le site officiel de catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, bien évidemment, Facebook, Twitter, Instagram. On est partout. On est donc sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur Apple Podcast, on est sur PodCloud, on est sur Spotify, on est sur Deezer et on est sur Google Podcast. Je crois que là, on est dans la complétitude. Je crois avoir oublié personne. Mon papy, merci beaucoup d'être venu en tag team partner sur ce SmackDown.
Bah, et merci pour cette review d'un SmackDown extraordinairement classique.
Voilà, on était dans un classicisme pur et dur, made in Corona Mania, hein, toujours. Hein. Il faut quand même, on ne cessera jamais de le répéter, hein, mais ça fait quand même partie des choses très, très, très difficiles à gérer. En plus, voilà, on a eu l'occasion là tous les deux de faire une baston du mercredi. Vous écouterez ça bientôt sur les ondes. Voilà, de toute façon, le problème se pose à NXT, le problème se pose à la AEW. Voilà, les shows de catch en général hein, souffrent de cette absence de public et pour nous, c'est dur aussi.
Hein. C'est pas la plus facile du catch, mais bon, on s'accroche. Eux aussi, je pense.
Surtout qu'en plus, je ne sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais on face à plein de champions en titre actuellement, etc., ou plein de catcheurs en général, je serais quand même curieux de voir un peu les réactions de la foule. Tu vois, je serais curieux de voir les réactions de la foule face à un Drew McIntyre. J'aimerais voir un peu comment AJ Styles gérait son personnage de heel en Intercontinental Champion avec du public. Tu vois, il manque quand même un élément tellement, tellement important dans l'ignoble sport, là.
Ah bah, c'est comme tu dis, il manque un élément du truc. Donc, ils battent et nous, on regarde une version partielle, en fait, du show. Tu le sens de toute façon parce que la moindre chose un peu moyenne, bah, tout de suite, ça devient limite catastrophique en fait parce que t'as pas le public pour rattraper.
Ouais, c'est ça. Ouais. Quand t'as pas le public pour rattraper ou au moins pour, ou encore plus pour appuyer, tu vois, le truc, c'est vraiment difficile. Voilà. Dernière petite info que je voulais donner avant de nous quitter, quand même, c'était à propos de Daniel Bryan. Parce que Daniel Bryan, en fait, semble se retirer vraiment de plus en plus d'entre les cordes. Va demander une mise à l'écart un peu plus importante. Il y avait un papier sur 411 qui parlait de ça. Mais il ne quitte absolument pas la WWE, les amis, rassurez-vous. En fait, il s'avère qu'il va beaucoup s'impliquer dans la production et dans le booking. Je ne sais pas, Daniel Bryan, bon, en même temps, il est à un âge maintenant où il peut penser à une certaine forme de reconversion. Et vu le background qu'il a, ça peut être intéressant d'avoir un booker comme Daniel Bryan dans les coulisses.
Ouais, surtout que c'est un mec comme mine de rien, Bryan. Tu vois, moi, par exemple, j'étais pas super fan au départ du personnage de Bryan parce que j'ai pas connu ton passage indépendant, donc forcément ça marchait pas trop avec moi qui joue sur cette corde-là. Mais par contre, c'est un mec où tu vois qu'il a su jouer sur chaque opportunité où qu'il a eu, quoi. Que ce soit les passages avec Kane, que ce soit le passage là où il était le champion de la planète, etc. Il a quand même fait pas mal de variations sur son personnage. On en parlait justement plusieurs fois dans la review de mecs qui n'arrivaient pas à se renouveler. Lui, c'est pas mal de fois renouvelé. Et donc, ça peut être une bonne idée d'un mec comme ça qui s'est renouvelé, qui a priori a aussi la possibilité de parler au patron et qu'on l'écoute. Donc, le voir peut-être aider à un renouvellement d'écriture, ça peut être pas mal, je pense. Ça peut permettre de redonner un peu de fraîcheur au produit.
Voilà, et ben c'est sur ces belles paroles qu'on va vous laisser, le peuple de catch-up. Voilà, on vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut mon papy.
Salut mon tonton et salut à tous.
Salut peuple de catch-up. Ah ouais, Otis. Non mais Otis. Ce scandale. Et le pire, c'est que la nana, elle l'invite bouffer un barbecue, quoi. Comme s'il avait
besoin de ça. Elle est complètement tarée aussi, de toute façon. Je pense que c'est... On est... Là, on est en train de regarder Vie ma vie chez les cassos, ça.